le magazine des Nations Unies.
Bonjour à toutes et à tous. Chasse aux ADF dans l'est de l'RDC, la MONUSCO dit respecter la décision des autorités congolaises d'engager des opérations militaires conjointes avec l'armée ougandaise. Le porte-parole de la mission l'a déclaré mercredi dernier, mais en même temps, il y a nécessité, a-t-il ajouté, d'établir une coordination très étroite dans ces opérations pour plus d'efficacité et plus de sécurité pour tous. La République démocratique du Congo compte actuellement 510 000 personnes vivant avec le VIH. Plus de 300 000 sont des femmes et environ 17 000 décès dus aux maladies liées au sida ont été enregistrés en 2020. Des statistiques fournies à partir de Matadi au Congo central par la directrice de l'ONU Sida en RDC, Madame Suzanne Kassédé, à l'occasion de la Journée mondiale du sida 2021. Nous irons également à Kananga pour le procès des deux experts de l'ONU assassinés. Peine capitale, c'est la sanction requise par les ministères publics contre certains prévenus, dont les colonels Jean-Dédieu Mambouini et les journalistes Kamouzadi. Ce sont donc là les grands sujets d'actualité de ce magazine et le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Les opérations militaires conjointes lancées en début de semaine par les forces congolaises et ougandaises contre les ADF révèlent d'une décision bilatérale entre la RDC et l'Ouganda que la MONUSCO respecte. Mais ces opérations nécessitent une coordination très étroite entre les acteurs pour plus d'efficacité et pour la sécurité de toutes les parties. C'est ce qu'a déclaré mercredi 1er décembre le porte-parole de la mission, Mathias Gilman, au cours de la conférence de presse des Nations Unies. Pour lui, la coordination de ces opérations permettrait notamment à la MONUSCO de voir comment sa force peut compléter les efforts faits et être utile dans la lutte contre les ADF dans cette nouvelle approche. Les propos du porte-parole de la MONUSCO sont recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Il y a évidemment un travail de coordination à faire. Le commandant de la force était avec, donc aujourd'hui avec le gouverneur du Nord Kivu. Demain ou très prochainement, il se rendra en Ouganda. Donc c'est vrai qu'il va y avoir évidemment des conséquences opérationnelles que nous, il faut qu'on prenne en compte dans ce qu'on peut faire. Notre mandat nous autorise à soutenir l'armée congolaise dans ces opérations. Notre mandat ne nous permet pas de soutenir une coalition régionale. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Ça veut dire simplement que nos efforts doivent être coordonnés. Il y a évidemment des discussions intenses qui se passent depuis hier et même depuis le week-end dernier pour avoir justement des mécanismes de coordination qui nous permettent chacun dans ce qu'on souhaite faire et dans la limite des mandats que nous avons, essayer d'être le plus efficace possible dans notre approche en garantissant au maximum la protection des civils, l'accès humanitaire et le respect du droit humanitaire international.
De la sécurité à la santé, les pays du monde ont célébré cette semaine la Journée mondiale de la lutte contre le sida. En RDC, c'est à Matadi, au Congo central, que la directrice de l'ONU Sida RDC est allée vivre l'événement. Madame Suzanne Kassédé a, à cette occasion, livré quelques statistiques sur la situation épidémiologique de cette maladie, notamment le nombre d'infections qui est actuellement de plus de 510 000 en République démocratique du Congo. De Matadi, le point avec Nana Plurichman.
Pour la vice-ministre de la Santé publique, Véronique Kalumbankulu, cette énième commémoration offre l'occasion de se mobiliser davantage et manifester la solidarité envers les personnes vivant avec VIH-SIDA, de marquer la sympathie à ceux qui souffrent du SIDA et de dénoncer les discriminations à l'égard des personnes vivant avec VIH-SIDA et les personnes affectées. La représentante pays de l'ONU Femme Suzanne Kassébé, qui a présenté les statistiques, a indiqué que la RDC compte 520 000 personnes vivant avec VIH-SIDA, dont plus de 300 000 sont des femmes. En 2020, 20 000 personnes ont été nouvellement infectées par le VIH et 17 en sont décédées. 74% des PVV sont sous traitement rétroviral et 22% de l'ensemble des PVV ont la charge virale supprimée. Dans son adresse, les représentants des personnes vivant avec VIH a déploré les difficultés d'accès au dépistage. Ange Mavula.
En République démocratique du Congo, on n'a pas accès au dépistage si on n'est pas femme enceinte, si on n'est pas population clé ou si on n'est pas malade tuberculeux.
Le professeur Liévin Kapène, secrétaire exécutif national du PNMLS, a indiqué pour sa part qu'en faveur des mesures de lutte contre la COVID-19, la plupart des stratégies de lutte contre les VIH-SIDA se sont retrouvées en difficulté, au point d'accentuer les inégalités, surtout en défaveur des personnes vulnérables. Matadi, Nana Plus Riche Mambou, Radio Okapi.
Volet judiciaire pour clore cette page d'actualité avec à Kananga les procès des deux experts de l'ONU tués au Kasaï en 2017. Le ministère public a requis mardi dernier la peine capitale pour certains prévenus, dont le colonel Jean des Dieux Mambouini. Plus de détails de ce réquisitoire avec François Kadima.
C'est à cette audience que le ministère public a clôturé son réquisitoire sur les 7 préventions à charge de 54 prévenus accusés dans l'affaire de meurtre de deux experts de l'ONU. Mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, crime de guerre par meurtre, crime de guerre par mutilation, détournement d'objets saisis, violation des consignes et terrorisme. L'organe de la loi a soutenu que les personnes qui comparaissent ont été impliquées. Elles méritent différentes peines retenues à leur charge. Pour le ministère public, depuis le départ de Kananga des deux experts de l'ONU jusqu'à Moyomusula, lieu où ils ont été tués, Jean des Dieux Mambouini et les autres acteurs qui comparaissent, dont 32 poursuivis contradictoirement et 22 par défaut, chacun a joué un rôle. Mais l'officier du ministère public a demandé à la cour militaire qu'elle soit atténuée les peines de 3 prévenus. Selon lui, Moulumba Mouté Bacharia, Mouela Moulumba Sami, Chibamba Mutombo Honoré ont collaboré avec la justice pour l'aider à comprendre ce qui s'était passé et identifier les autres acteurs. Les avocats conseillent de prévenus ont promis de débuter les plaidoiries à la prochaine audience. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'unité correctionnelle de la MONUSCO était en retraite cette semaine au quartier général de la mission à Kinshasa. Dans un entretien avec Honoré Missenga Kalala, la chef de cette unité, Madame Patience Sai, complétée par son adjoint Tchèque Bass, a fait une évaluation du travail abattu cette année. Suivez.
Madame, bonjour. L'unité correctionnelle en retraite, c'est un exercice annuel, mais l'année passée, ça n'a pas eu lieu, je crois, à cause, je pense, de l'épidémie. Quelle est la particularité de cet exercice cette année?
Je pense que cet exercice, d'une manière générale, ça renforce la capacité de l'équipe. Aujourd'hui même, on a eu à échanger sur l'équipe, avoir une équipe. Donc c'est cet exercice qui est une pratique qui essaie de souder les relations entre les membres de l'unité et aussi de monter d'une manière à ce qu'on a des résultats palpables. Donc vous allez remarquer qu'avec Corrections Unit, il y a quand même des résultats au niveau de bénéficiaires, donc nos collaborateurs nationaux, mais même au sein même de la mission. Cette année, comme vous avez bien dit, l'année passée, on n'a pas pu parce qu'il y avait la pandémie. On avait tenté également de faire d'une manière virtuelle, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'on avait les restrictions de 20 personnes par salle, ce qui a fait qu'on n'a pas pu. Et cette année, la particularité ici, c'est qu'on se rattrape avec tout ce que nous avons manqué de l'année passée. Il y a des nouveaux arrivés dans l'enceinte même de l'unité qui n'ont pas eu quand même cette orientation, induction. Donc c'est vraiment important qu'on échange ensemble pour former l'équipe beaucoup plus solide, pour qu'ils comprennent le contexte de mission, de peacekeeping, mais en même temps qu'ils comprennent le mandat de la mission et le mandat spécifique aussi de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire.
Oui, et renforcer l'équipe. Quels sont les grands thèmes de cette retraite?
Oui, merci beaucoup. Je pense que ce que madame a rappelé, c'est important. D'abord, quand il s'agit d'une équipe et d'un travail d'équipe, renforcer une équipe, c'est construire une harmonie. Et si vous avez remarqué, il y a eu le team building, qui est un élément essentiel. Ça veut dire on rassemble les gens, on les met ensemble, on les aide à construire, à communiquer, à se respecter pour atteindre un même objectif commun. Et aujourd'hui, vous allez voir que les gens ont partagé ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'une retraite, par nature, c'est une évaluation. Ça veut dire, dans tout projet, il y a une phase d'évaluation où on doit s'arrêter, regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc c'est un état des lieux. Et aujourd'hui, vous avez vu, et vous-même, vous êtes témoin de ce que Correction fait depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et ça, c'est un appui institutionnel. Et si vous regardez la mission, c'est l'appui institutionnel. C'est la transition. Ça signifie qu'il faut construire des compétences, il faut construire une institution forte pour que quand la mission va aller, on laisse au pays quelque chose qui lui permet de se prendre en charge, de construire sa paix, de consolider sa paix et de construire son propre développement. Donc c'était cela le plus important.
Dernière question, madame. La retraite, c'est en fait un exercice d'évaluation, c'est une auto-évaluation. Est-ce que vous pouvez aussi faire une petite évaluation de vos relations avec les institutions congolaises avec lesquelles vous êtes en collaboration?
Merci beaucoup. Dans ma langue propre, on dit que on peut pas s'évaluer en réalité. Donc j'ai pas l'habitude de m'évaluer, bien de me vendre. Mais je pense que comme vous m'avez donné l'occasion, le leadership de la mission témoigne. Même le leadership de l'administration pénitentiaire témoigne également. Madame la ministre, elle est là. Ce sont des questions aussi que vous pouvez poser aussi aux autorités nationales. Mais je pense que clairement que l'impact est positif. Les résultats, on sent. Il faut savoir que dans tout ce que nous faisons, nous avons un cadre de travail. Donc, toutes les ressources que la mission nous donne, il y a des résultats qu'ils attendent de nous. L'année passée, donc, c'était en tout cas formidable. On a dépassé même le target que nous avons envisagé. Cette année également, on est toujours dans le bon. Donc, ça dit que notre objectif, c'est d'éviter des incidents majeurs, insécurité majeure dans les établissements pénitentiaires. L'année passée, c'était formidable parce que seulement Béni qui a eu des problèmes des évasions en masse. Mais sinon, les autres coins, c'est bon. Cette année, c'est zéro. Donc, je voulais dire par rapport à ça, ce qui est prévu par la mission, c'est 100% résultat. Peut-être tu dis 150, peut-être 200, je ne sais pas. Et c'est grâce aux éléments que nous avons. Ils sont compétents, ils sont dévoués, ils sont engagés. Et je pense que c'est aussi à cause de l'appui qu'on reçoit de leadership de la mission. Parce qu'il faut noter également que l'année passée, à la fin de l'année, le reliquat de fonds de la mission, le leadership de la mission nous a donné l'argent, là, une partie de l'argent selon le projet qu'on avait soumis. Ça a été approuvé. On a eu le financement. On a des projets à Lubero, bien qu'on n'est pas là. Mais par l'extension, ça bénéficie quand même Béni et Butembo. Il y a aussi des activités de chant à Kalemi. Aussi, il y a quelque chose prévu aussi pour Nyongera. En plus de ça, il y avait 3 activités de formation initiale pour le personnel pénitentiaire. Je pense que ça a bénéficié autour de 300 personnels pénitentiaires. Donc, c'est vraiment énorme. Ou peut-être quelqu'un va dire que oh, bon, ce sont des formations, mais quel est l'impact? Ben, l'impact est réel. Parce que bien avant, je dirais dans 4 ans, 5 ans, il y a toujours des violations des droits de l'homme. Il y a des détenus qui ont des plaies parce qu'ils ont été battus par le capital général et tout ça. Mais on peut parler avec fierté que cette fois-ci, ces histoires-là n'existent plus. Donc, ce sont des impacts, c'est des processus. Et nous sommes dans les transitions maintenant. On est accompagné avec le PNUD, les membres de l'équipe pays, mais aussi les d'autres partenaires comme EU, comme d'autres ONG et tout ça. Société civile. Donc, je pense que ce sont des petits pas, mais ce sont des pas aussi avec impact. Et que si nous continuons comme ça, d'ici quand la mission va finalement se retraiter, comme il a bien dit, on ne va pas avoir un vide parce que le pays va pouvoir se prendre en charge. L'administration pénitentiaire sera en mesure de continuer là où on va sortir. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Nos nouvelles en plus bref, le Royaume de Norvège et l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, ont signé le 24 novembre dernier un accord de partenariat pour lancer un projet de lutte contre l'esclavage moderne dans les sites miniers des provinces du Nord et Sud Kivu. La durée de ces projets est de 30 mois et le projet a pour but d'améliorer la stabilité et l'accès aux droits humains des personnes qui se retrouvent dans les sites miniers, y compris des femmes et des enfants vulnérables dans les zones minières de l'Est de l'RDC. Restons encore dans cette partie du pays. 45 jeunes, dont 17 filles, des Sake, à 20 km de Goma, ont pris part cette semaine à une conférence débat sur les processus de paix, la sécurité et le développement de leurs communautés respectives. Ces forums ont été organisés par 3 sections de la MONUSCO, les affaires civiles, la protection de l'enfant et l'information publique. Enfin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR s'est dit consterné par une série d'attaques meurtrières menées par des groupes armés contre des personnes déplacées dans l'est de la RDC. Dans un communiqué publié à ce propos, l'agence de l'ONU pour les réfugiés a indiqué aussi avoir besoin d'un soutien financier supplémentaire pour ses opérations sous-financées afin de pouvoir renforcer son soutien aux déplacés internes.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le coordonnateur humanitaire de l'ONU RDC, David Maclaklankar, était en mission à Lubumbashi jusqu'au mardi 30 novembre dernier. Il était accompagné de tous les chefs d'agence du système onusien en RDC. C'était pour élaborer un plan de travail pour 2022. Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien qu'il a accordé à Radio Kapi en répondant aux questions de Jean Gandou.
Monsieur le coordonnateur, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut connaître l'objectif de votre visite dans la province du Haut-Katanga?
Je suis venu avec 22 chefs d'agence dans le système des Nations Unies. C'est une activité annuelle pour la planification 2022. Qu'est-ce que nous allons faire dans la RDC en termes de développement? Cet processus de planification, c'est bien important pour assurer une meilleure cohérence d'action pour le développement dans la RDC en ligne avec les priorités identifiées par le gouvernement national. Notre plan cadre pour le développement, il s'appelle UNDAF. C'est un document qui on signe entre le Premier ministre et moi en tant que coordinateur résident. Chaque année, ça définit notre travail pour les prochains 12 mois. C'est pour ça qu'on a choisi cette fois de venir à Lubumbashi, la deuxième ville de la RDC, pour mieux connaître comment les priorités ici dans la province.
Et qu'est-ce qui pourrait être les retombées de cette rencontre pour la ville de Lubumbashi en particulier?
Hier soir, on est invité par son excellence le gouverneur de Haut-Katanga. Pendant ce dîner, on a parlé aussi sur les priorités pour le développement de Haut-Katanga avec son excellence. Malheureusement, cette visite est assez courte parce que, comme toujours, à la fin de l'année, il y a beaucoup de processus budgétaires à compléter. C'est juste pour déplacer un peu de la capitale pour cette séance de travail entre toutes les agences qui sont résidentes dans la RDC.
Dans la province du Haut-Katanga, il y a également des nécessités pour qu'il y ait une intervention humanitaire. Est-ce que vous en avez également parlé avec l'autorité?
En effet, on n'a pas beaucoup de programmes humanitaires directs ici dans la Haut-Katanga. La plupart de nos activités humanitaires sont focalisées sur l'est du pays où il y a un conflit actif, comme Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Nyunzu dans le Tanganyika. Ici, les conditions sont favorables pour un développement accéléré. Et je crois que la plupart de nos programmes ici à Lubumbashi seront pour donner un soutien aux autorités provinciales pour le développement. Alors, on n'a pas beaucoup de programmes humanitaires existants ici en Haut-Katanga.
Et puis, s'il arrivait que vous puissiez intervenir, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même, ce serait dans quel domaine exactement?
Les programmes humanitaires que nous avons sont liés au développement et sont basés sur la provision des services sociaux en termes d'éducation et services sanitaires. On a bien sûr notre programme et c'est orienté vers les jeunes. Pour nous, les priorités sont que les filles vont toutes à l'école. Ça, c'est bien une priorité pour nous, que les femmes aussi dans la province aient accès aux services médicaux qui fonctionnent. C'est plutôt aide humanitaire lié au développement pour la provision des services de base, éducation, santé. Nous n'avons pas, par exemple, dans cette province, un problème des personnes déplacées. Comme en Ituri, dans l'est du pays, il y a 5,5 millions de personnes déplacées par les conflits. Et ces personnes, nous allons livrer comme une assistance directe à ces personnes. Et ça, c'est vraiment comme aide humanitaire. Ici, c'est plutôt comme le développement. Appuyer les autorités provinciales de livrer comme assistance à la population en termes de services de base, éducation et santé.
Pour terminer, pensez-vous que le budget pourra être révu pour l'année prochaine?
On vit maintenant, honnêtement, dans une situation de crise financière à cause du COVID. On a du mal cette année de mobiliser des ressources pour nos programmes. Une tâche très importante pour moi, c'est mobiliser des ressources pour le système des Nations Unies. Nous aurons, avec quelques ministres, lancé le plan de développement pour l'année prochaine auprès des bailleurs des fonds pour que nous puissions mobiliser plus de ressources pour les programmes ici. Mais honnêtement, cette année a été très difficile pour toutes les agences en termes des finances. Malheureusement, le budget s'est un peu réduit. Notre programme humanitaire dans le pays a une valeur de 1,98 milliard de dollars. Nous sommes financés cette année à 37%. Il y a toujours le mois de décembre. Je crois que nous n'allons pas atteindre plus de 50% des financements pour l'assistance dans le pays. Alors ça, c'est grave. C'est pour ça que nous devons ensemble redoubler nos efforts avec le gouvernement de mobiliser des ressources pour le peuple congolais.
David McClankar, merci.
Merci à vous et merci à Radio Okapi.
Allons à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où ont été inaugurés les bureaux du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. L'événement s'est passé mercredi 1er décembre en présence, tout naturellement, du représentant résident de cette agence, Édouard Belbédère. Celui-ci en a profité pour parler du lancement prochain de la nouvelle radio Bana Okapi, une radio spécialement conçue pour les enfants. Écoutez les représentants de l'UNICEF en RDC, au micro de Jean Gandou.
On a déjà depuis le 20 novembre, une nouvelle grille de Bana Okapi. On peut écouter Bana Okapi aujourd'hui à Kinshasa, à Kananga, à Goma, à Bukavu, à Kalimi, à Bunia. Cette semaine, on va pouvoir aussi l'écouter à Lubumbashi. C'est une radio pour les enfants, avec les enfants, où on a beaucoup d'émissions éducatives, où il y a de la participation des enfants sur ce qu'ils souhaitent faire. On parle de la paix, on parle de la santé, on parle de la nutrition, on parle de la protection et aussi de la musique. Et bientôt, on aura 42 émetteurs, en gros les émetteurs de Radio Okapi, qui auront aussi Bana Okapi sur leur station. Bah, les enfants représentent 54% de la population. Donc il est normal qu'on ait aussi des services pour les enfants. Les enfants ils ont des besoins différents suivant leurs âges. Ils aiment écouter aussi différentes sources d'informations. Aujourd'hui, ils ont plein de radios, mais où il y a beaucoup de débats, où c'est plus fait pour les adultes. Alors que là, les programmes sont faits par les enfants pour les enfants. Et ça fait partie de la Convention des droits de l'enfant, où il faut faire participer les enfants.
Magazine des Nations Unies. Questions aux Nations Unies.
Merci, c'est Saint-Germain des Prés pour le compte de patrinews.net. Quel est le point de vue de l'ONU SIDA par rapport à la mise en place d'un sidatorium, c'est-à-dire un centre d'hébergement des personnes atteintes du SIDA afin d'éviter sa propagation à large échelle?
La question a été posée à Monsieur Amadou Dambagui, conseiller en information stratégique de l'ONU-SIDA-RDC à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre le SIDA. C'était à la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier à Kinshasa. Suivez la réponse du fonctionnaire onusien.
Personnellement, je ne suis pas favorable pour une raison simple. C'est la stigmatisation, c'est la discrimination. Et ça, c'est un frein aussi à l'accès aux services. Aujourd'hui, vous me voyez, vous ne savez pas si je suis positif ou je ne le suis pas. Vous verrez quelqu'un, moi je suis diabétique, mais vous prenez quelqu'un qui est séropositif aujourd'hui. Si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas savoir que cette personne est séropositive. Donc elle vit normalement sa vie du fait qu'elle a le traitement et tout. Pourquoi on va coincer cette personne-là? Donc pour l'orphelinat, on comprend, l'enfant a perdu ses parents et tout. C'est bon qu'on l'héberge quelque part, qu'il puisse dormir, qu'il puisse manger. Mais pour le cas du VIH, de mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est mieux de ne pas stigmatiser en les mettant quelque part. Parce que si on sait que là, c'est le centre où ce sont les personnes séropositives, elles ne peuvent même pas sortir dehors. Alors que cette personne peut-être mieux portante que vous, si vous souffrez d'un paludisme ou des trucs comme ça, mais elle est en forme et tout. Donc elle peut travailler, elle peut tout faire. C'est ce que je peux dire par rapport à ça. Et parce que la stigmatisation et la discrimination sont aussi partie de ce qui freine l'accès aux services. Quelqu'un aujourd'hui, même s'il a pris des risques en faisant des rapports donc non protégés, a peur parfois d'aller même là où on va le tester pour savoir. S'il sait qu'il est séropositif, imaginons c'est un étudiant, il ne veut pas qu'on le dise dans la classe parce qu'il peut être mis de côté au niveau donc de ses camarades, il peut être stigmatisé. Évitons cela.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Dans votre agenda, notez ceci pour la semaine qui commence. 6 décembre, c'est ce lundi, présentation par la représentante spéciale et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, au Conseil de sécurité à New York, du rapport sur la situation en République démocratique du Congo. Et c'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site radiocapi.net. Radio Capi en un mot. Je suis Julie Ngala. J'étais à la présentation avec les concours techniques de Sylvain Matundou et Polydor Basunga. Cette émission a été produite, coordonnée et réalisée par Honoré Missenga Kalala. Merci à tous de votre attention et restez branchés pour la suite des programmes sur la Radio de la Paix.